Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé le meilleur week-end possible, peut-être même prolongé pour certains d'entre vous. Soyez prudents d'ailleurs si vous êtes sur la route du retour. Et puis joyeuse Pâques Thérèse et bienvenue sur RTL pour une nouvelle semaine d'échanges, de réflexions et de partage. Mercredi, nous recevrons Françoise Hardy et Jean-Luc Romero pour aborder le délicat sujet de la fin de vie dans la dignité. Jeudi, un grand entretien avec une jeune femme d'une grande force, Pauline Desrouledes. Vous découvrirez son histoire édifiante et exemplaire. Vendredi, place à linguistique et aux fautes de français, mais pour l'heure, je vous le disais, c'est lundi et c'est philosophie. Peut-on aller bien dans un monde qui va mal? Le confinement et les restrictions n'en finissent pas de se prolonger depuis un an. L'état de notre pauvre planète empire d'année en année. L'écart entre richesse et pauvreté ne cesse de se creuser. Écouter les infos est parfaitement déprimant. Non, je ne cherche pas à vous plomber, car justement, peut-on être heureux dans le chaos général? En avons-nous le droit? Faut-il se l'accorder? Ou est-ce un devoir? Comment ne pas se laisser trop influencer par la morosité ambiante? On en parle avec vous, avec Lilian qui va nous rejoindre dans un instant, mais également en compagnie de nos invités. Marianne Chaillant, bonjour. Est-ce que Marianne Chaillant est en ligne avec nous? Eh bien, je vais accueillir Gilles Verviche. Bonjour Gilles Verviche.
Bonjour, je suis là.
Bienvenue sur RTL, Gilles. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe et auteur d'un livre « Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi » aux éditions Flammarion. Gilles Verviche, merci d'être avec nous. Est-ce que Marianne Chaillant est de retour?
C'est Marianne.
Toujours pas, ça n'est pas grave. Gilles Verviche, la question que l'on se pose aujourd'hui, en fait, on explore le fossé entre soi et le monde. Si nous faisons partie d'un monde qui va mal, finalement, nous, à titre personnel, on peut aller bien.
Oui, alors vous parliez de devoir, de droit ou de devoir d'aller bien. J'ai envie tout de suite, pour provoquer un peu, me demander si on n'aurait pas le devoir d'aller mal, en fait. C'est-à-dire... c'est peut-être un symptôme de vous savez, quand on est bien dans un monde qui va mal, c'est pas très normal. De même que si on est en bonne santé dans un monde fou, c'est peut-être que soi-même on va pas très bien. Donc je sais pas, moi on peut imaginer dans les heures les plus sombres de l'histoire, prenons le cliché de la Deuxième Guerre mondiale, ça me paraîtrait bizarre d'aller bien dans ce monde-là et de pas vouloir éventuellement le changer, ou on verra les solutions éventuelles, mais voilà, je suis pas sûr que ce soit un devoir d'aller bien dans un monde qui va mal. Ouais. Ça serait un peu se voiler la face, quoi.
Alors, peut-être. On verra ce qui motive certains messages qui vont dans ce sens. Marianne Chaillant vient d'arriver. Bonjour Marianne.
Bonjour Flavie.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure de philosophie, écrivaine et chroniqueuse. Votre livre, c'est In Pop We Trust, aux éditions des Équateurs. Gilles Verviche, justement, rebondissait sur ce que j'avais dit. Avons-nous un devoir aussi d'aller bien parfois dans un monde qui va mal? Et Gilles dit, non, quelque part, on peut interroger le devoir d'aller mal. Qu'est-ce que vous en pensez, Marianne Chaillant? Est-ce qu'on devrait toujours, à un moment donné aussi, supporter tous les malheurs du monde? Et là, je recontextualise notre société d'aujourd'hui. Nous empêche-t-elle à titre personnel d'aller bien? Est-ce qu'il faut que je culpabilise si j'ai le moral en ce moment?
Pas du tout, mais alors pardonnez-moi, pour des raisons techniques, j'ai raté le début de l'émission. On n'a pas du tout de quoi culpabiliser d'aller bien, mais par contre, et je crois que c'est ce que a dit Gilles, on a aussi le droit d'aller mal. Mm-hmm. Et je pense qu'on va le développer dans l'émission.
D'accord. Et le fait d'aller bien en ce moment, qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote de l'égoïsme? Ou est-ce que finalement ça dénote une certaine force que l'on puise en soi pour pouvoir continuer à avancer?
Alors ça peut être les deux. Vous me faites penser, en parlant d'égoïsme, à une citation de Flaubert qui disait « Être bête, être égoïste et avoir une bonne santé, voilà les trois conditions requises pour être heureux. » Alors c'est vrai que dans un monde qui va mal, il faut un peu d'égoïsme, il faut un peu un manque de lucidité pour être heureux. C'est vrai. Voilà. Mais ça peut relever de ça, ça peut relever de la bêtise ou de l'égoïsme, ou, vous avez raison, ça peut aussi relever d'une force, d'une capacité de résilience. Donc voilà, ça peut être l'un ou l'autre, effectivement.
Alors, on va accueillir Lilian, si vous le voulez bien. Il habite près d'Orléans, où il est professeur des écoles. C'est l'avantage d'un jour férié, c'est que Lilian n'est pas en train de donner des cours. Bonjour Lilian.
Bonjour à vous.
Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous sur l'antenne d'RTL. Donc je le disais, vous êtes prof des écoles, donc vous ne bossez pas aujourd'hui. C'est une chance pour nous. Dites-moi Lilian, est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment d'aller bien et de lutter contre la morosité ambiante ou est-ce que vous vous sentez profondément impacté par le monde dans lequel vous vivez ?
Alors, je pense plutôt me placer dans la catégorie des gens qui arrivent à aller bien dans un monde qui n'est pas forcément très joyeux. Voilà. Après, est-ce que c'est de l'égoïsme ? Est-ce que c'est de la bêtise ? Ou est-ce que c'est, voilà, comme le disait Flaubert, voilà. Je ne sais pas, je ne saurais pas trop. C'est peut-être un cocktail de tout ça. C'est-à-dire que on peut très bien aller ressentir de la joie, du bonheur dans sa vie personnelle, pour autant ne pas être, comment dire, être
heureux
ouvert sur les voilà, et puis être ouvert sur les malheurs du monde. L'un n'empêche pas l'autre. Je ne vais pas culpabiliser d'être heureux dans ma vie sous prétexte que d'autres personnes ne le sont pas. Par contre, si j'ai la capacité, moi, de faire en sorte qu'une personne aille mieux dans par mes actes, ou par ma générosité, ou par mon travail, ou par, voilà. Donc, du coup, je peux donner un sens à mon propre bonheur en essayant de le diffuser autour de moi. Par exemple.
Voilà. Et c'est effectivement cette force de résilience dont je vous parlais il y a un instant, Gilles Verviche, c'est Philippe qui nous écrivait. On se doit quelque part aujourd'hui d'aller bien dans un monde qui va mal pour se protéger, pour ne pas laisser le collectif sombrer, il en va de sa santé. C'est important aussi ça, Gilles Verviche, de se sentir dans une société qui effectivement peut partir d'un point de vue général en vrille, et de se dire, bon, moi je vais essayer à un moment donné de maintenir une vraie santé mentale pour pouvoir la diffuser. C'est ce que vient de nous expliquer quelque part Lilian.
Oui, en fait, quand je dis qu'on a le devoir d'aller mal, c'est pas le devoir de tomber dans la déprime.
Vous êtes rasoir, dès le départ.
Et de pas sortir de son... Mais non, c'est pas ça, c'est que c'est simple. Ça y est, je suis rasoir. C'est que j'en fais partie de ce monde et de cette société. Donc, si on veut simplifier les choses, on va dire qu'on va avoir deux solutions. Enfin, soit effectivement un repli sur soi. On parlait d'égoïsme, pourquoi pas d'individualisme, en essayant de regarder ailleurs, hein, et de se replier dans une sorte de bonheur personnel, familial, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, c'est quand même un peu se voiler le fait qu'on fait partie de ce monde. Donc la deuxième solution, c'est effectivement pas tomber dans la déprime, trouver des sortes de ressources, de projets, mais pour essayer de faire que ce monde autour de moi aille mieux, effectivement, ce que disait un peu Lilian, quoi, voilà. Et pas simplement fuir, s'échapper comme ça du monde dont je fais de toute façon partie. Enfin, voilà, à un moment, ça va me rattraper. Hein.
On va se retrouver dans un instant. Lilian, vous restez bien sûr avec nous, et puis on écoutera Christelle, qui va également témoigner sur cette antenne, puisque ce sujet l'interpelle. A tout de suite en direct sur RTL jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Et aujourd'hui, c'est philosophie avec Marianne Chagnan, qui est professeure de philosophie, Gilles Verviche, qui est philosophe, et cette question, peut-on être heureux dans un monde qui va mal ? Guy nous écrit sur Facebook, il faut que je prenne sur moi. Longtemps, j'ai été une éponge à émotions. J'évite de croire que je peux changer ou être responsable de la marche du monde ou du comportement des autres, ou encore de la vérité sur le bien et le mal. Ça va mieux depuis. S'occuper de soi, ce n'est pas se foutre de tout, c'est éviter de souffrir par trop de sentimentalisme. On en parlera avec Christelle, qui interviendra dans un instant. Mais pour l'heure, vous êtes avec nous, Lilian. Vous avez 37 ans, vous êtes professeur des écoles près d'Orléans. Quel âge ont vos élèves ?
Alors, je suis enseignant en maternelle depuis maintenant quelques années. Et là, je suis avec des moyennes sections. Donc, ils ont entre 4 ans et 5 ans.
D'accord, oui, ça nous rappelle de très très vieux souvenirs. Est-ce qu'ils se rendent compte du monde qui est le leur aujourd'hui ? Est-ce que vous les voyez ? Est-ce qu'ils ont une certaine conscience de la société dans laquelle ils vivent ?
De toute façon, les enfants viennent avec leur vécu bien évidemment familial. Ils ont leur bagage, ils ont leur propre vécu, et du coup, ils sont partie prenante de la société. Même si certaines familles vont faire attention de ne pas les angoisser en leur montrant des images d'informations, etc. Il y a toujours des enfants qui vont avoir une oreille, qui vont entendre les discussions de parents, qui vont avoir aussi parfois la radio, voilà, etc. Donc, du coup, les enfants prennent des brides d'informations, font leur propre récit, souvent. Et du coup, parfois, ils viennent avec tout ça. Donc, ce qui veut dire que, en plus, on est dans une société où, par exemple, si on prend l'exemple du coronavirus, où les enfants, ça fait quand même un an maintenant qu'ils sont avec cette situation. Donc, pour un enfant de 4 ans, de 5 ans, vous imaginez bien qu'un an, une année complète, c'est quand même
c'est
pas
énorme.
Rien.
C'est énorme dans une vie de 5 ans, bien sûr.
Voilà, donc du coup, ils vivent avec ça. Ça ne veut pas dire qu'ils en sont malheureux. Ça veut dire que c'est un élément de leur quotidien et de leur existence. Donc forcément, ça fait partie de leur vie. Du coup, ils ont parfaitement conscience. Parfois, quand on discute, moi, j'ai des enfants qui vont me dire « je ne suis pas allé voir mamie ». Voilà, ça, c'est des choses que j'ai rencontrées. Ou des enfants qui ont dit faut faire attention à ça, faut pas éternuer, faut pas. Donc ils sont quand même avec des questionnements parfois d'adultes parce que voilà, ils entendent, ils sont des éponges et du coup voilà, et ils prennent un petit peu tout ça. Et nous, notre travail d'adulte référent en tant qu'enseignant, c'est soit d'inculquer les bons réflexes, soit de dédramatiser, d'apaiser, d'expliquer, etc., etc.
Et vous avez le sentiment qu'en les sécurisant avec un discours justement averti et adapté, vous avez le sentiment que ces enfants vivent leur enfance.
Oui. Oui, je pense. Après, j'avoue que là, avec un an de recul, je n'aurais pas tenu ce même discours il y a un an. Au moment où le premier confinement est arrivé. Je pense que là, il y a énormément de questions qui se sont posées, moi, en tant que professionnel. Je me suis dit, comment on va faire avec des enfants qui, d'un coup, vont avoir une rupture scolaire, etc., etc. Là, les choses sont un petit peu différentes. Maintenant, on a vu comment ça fonctionnait, on a du recul, on a des techniques pour que, voilà, on a des outils qui sont mis en place. Donc, les choses sont un petit peu différentes, mais on a évolué.
Alors, Marianne Chaillant, qu'est-ce que ça vous inspire, le témoignage de Lilian ?
Je l'écoute avec intérêt. Gilles et moi, en tant que professeurs de philosophie, nous avons des élèves beaucoup plus âgés. Donc, on n'a pas affaire à la même expérience, tout à fait. Moi, je vois différents types d'élèves. Je ne sais pas si pour Gilles, c'est pareil. Certains sont dans une ignorance, je pense, délibérée de ce qui se passe et continuent vraiment, non pas de vivre avec le virus, mais de vivre comme s'il n'y avait pas de virus, ce qui est assez terrifiant. Continuent à faire des soirées, par exemple. D'autres sont dans un déni protecteur. C'est tellement terrifiant, cette réalité à laquelle on les confronte à leur âge, cette mort qui plane au-dessus de leur tête, la peur de ramener le virus à la maison, que certains préfèrent être dans le déni et puis certains ne vont pas bien. Vraiment. Et dans ce monde qui va mal, eux-mêmes ne vont pas très bien. Et c'est important, du coup, de pouvoir leur dire qu'on a le droit de dire que ça ne va pas. Voilà, on a le droit de se montrer vulnérable et inquiet. L'inquiétude n'est pas un mauvais signe, en fait.
Alors, si on a le droit de dire que ça va mal, est-ce qu'on a le droit aussi, Gilles Berviche ? Je sais que tout à l'heure, vous m'avez dit non. Mais moi, je voudrais qu'à un moment donné, on pose la question, peut-on aller bien dans un monde qui va mal ? Là, on parle de la petite enfance à travers le témoignage de Lilian, qui nous explique quand même qu'il ne faut pas être captif de notre monde et captif de l'actualité. Est-ce qu'il faut culpabiliser d'aller bien aujourd'hui ? En deux mots, ces enfants qui sont dans l'insouciance malgré tout, dans un monde qui n'est pas facile, ces enfants parviennent à vivre avec. Est-ce qu'il faut que nous, on revisite quelque part notre conception du bonheur dans la société actuelle ?
Ça en fait des questions, hein. Alors, trois choses. D'abord, si vous voulez que je vous dise que non, faut pas culpabiliser,
Merci.
D'aller bien. Voilà. Moi, je pensais quand même, mais je vais vous dire le contraire dans 5 secondes. Moi, je pense à Erasme dans l'éloge de la folie qui dit c'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Donc, on pourrait dire que c'est de la folie de vouloir aller bien dans un monde qui va mal. Par rapport à ce que disait Lilian, je pense qu'effectivement, la manière dont un enfant peut ou doit vivre ce monde qui va mal doit être différent selon les âges. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans qui me disait l'autre jour ce serait bien d'inventer des robots qui mangent le coronavirus. Bon, voilà, c'était mignon. Je pensais qu'effectivement, avec le degré de conscience qui est moins développé, je pensais, en écoutant Lilian au film La vie est belle de Benigni, où on voit un père qui fait tout pour
dans un camp de concentration.
voilà, un camp de concentration pour faire que son enfant prenne comme un jeu une réalité effroyable. Et peut-être que quand on a 5 ans ou cet âge-là, c'est peut-être pas mal de effectivement protéger un peu les enfants de ce genre de d'horreur. Après, en revanche, quand on a affaire à un adolescent de 18 ans, on va pas non plus faire la même chose. Là, au contraire, il y a quand même, on est à un âge où on essaye plutôt d'éveiller les consciences et on serait plutôt, comme disait Marianne, dans le déni, quoi. Donc peut-être à réussir à les accompagner pour prendre conscience du monde sans en souffrir, pourquoi pas savoir comment le changer.
Christelle, elle a plus 5 ans, hein. Elle en a 42, elle va témoigner dans un instant. Ouais. Justement, et se poser la même question que nous, en tout cas tenter d'y répondre. Est-ce qu'on peut être heureux dans un monde qui va mal? En tout cas, Lilian, merci de protéger les plus jeunes à travers votre enseignement. Merci d'avoir commencé cette émission avec nous et je vous souhaite une bonne fin de journée du côté d'Orléans. À bientôt, Lilian.
Bien, bonne journée à vous. Au revoir.
Salut, à bientôt sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
A-t-on le droit aujourd'hui d'aller bien dans un monde qui va mal? Peut-on être heureux dans le chaos général? Est-ce qu'il faut s'accorder ce droit ou est-ce même un devoir? On en parle avec nos invités Marianne Chaillant, Gilles Verviche et Christelle qui nous rejoint sur cette antenne. Bonjour Christelle.
Bonjour Flavie.
Bienvenue Christelle, vous avez 42 ans, vous habitez du côté de Douai. Et alors pour vous, c'est indispensable d'aller bien, c'est possible mais c'est même indispensable. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, c'est indispensable en ce qui me concerne. J'essaie de l'imposer entre guillemets à mes proches pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai été longtemps comme le monsieur qui témoignait dans votre message tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai été une éponge un peu de tout ce qui m'entourait. Et c'est vrai que j'allais mal. J'allais mal non pas par rapport à ma vie à moi, mais par rapport à tout ce que j'entendais autour de moi. Donc le paroxysme étant les attentats de 2015 que l'on a vécu. Et à cette époque-là, j'arrivais pas à surmonter. C'était comme si j'avais perdu quelqu'un dans ces attentats. J'arrivais pas à surmonter cette sidération, cette horreur que l'on avait vécue ici en France. Et puis, à ce moment-là, on parle beaucoup avec les amis. Et puis, il y a une amie qui m'a dit, tu sais, Christelle, dans le monde, il en a toujours été ainsi. Il y a toujours eu du malheur, du bonheur. Et elle m'a dit, si tu continues comme ça à être une éponge et à t'abreuver du malheur des autres comme ça, ça fera une personne de plus dans le monde qui sera malheureuse et tu seras passé à côté de ta vie. Et en fait, ça a été comme une révélation pour moi, ce qu'elle m'a dit là. Et après en avoir discuté encore avec elle, elle m'a dit, tu sais, tu peux toujours faire des choses à ton niveau, tu sauveras pas le monde. Mais elle dit, tu peux faire des petites choses qui font que les gens autour de toi ou le monde autour de toi aille mieux à ton niveau. Et donc j'ai compris beaucoup de choses en fait à ce moment-là. Et encore plus aujourd'hui avec ma fille qui m'aide à aller sur le bon chemin et qui elle est optimiste forcément avec toute l'innocence qui la caractérise à 11 ans. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis dit c'est comme ça qu'aujourd'hui j'arrive à me dire que oui, je suis heureuse dans un monde qui va mal. Oui, et j'ai pas honte de le dire, c'est pas, ça fait pas forcément de moi quelqu'un d'égoïste, pas du tout même. Voilà, je me l'impose parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui m'aiment, j'ai la chance d'avoir un toit, j'ai la chance d'avoir à manger. Enfin, voilà, c'est me dire qu'effectivement, dans un monde qui va mal, moi je vais bien et il faut que j'aille bien parce que j'ai pas de raison d'aller mal, mais je fais en sorte que de pouvoir aider les autres autant que faire se peut, quoi.
Alors, c'est super intéressant parce que Christelle, ce que vous nous expliquez, c'est que vous pouvez avoir mal à votre monde, mais vous n'allez pas mal avec le monde.
Exactement.
Et c'est intéressant. Est-ce que vous vous êtes départi d'une sorte de dépendance à votre environnement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez dû à un moment donné vous affranchir et penser plus à vous-même et quelque part ne plus être captif de l'actualité? Est-ce que de temps en temps vous décrochez du monde?
Voilà, c'est exactement ça. En fait, la première chose qu'il a fallu faire, ça a été de décrocher les actualités du journal de 20h, du journal de 13h qu'il fallait regarder et qui effectivement montrait probablement une facette du monde qui n'était pas belle, mais qui n'était peut-être pas non plus 9/10 de ce que représente le monde, en fait.
Donc, bien sûr.
C'était important de nous on regarde très très peu les actualités, on se tient au courant des informations qu'il y a dans le monde, mais on regarde très peu les actualités parce que ça fait ressortir en général le côté noir de l'humain, mais vraiment dans son côté le plus sombre. Nous, ce qu'on essaye, par contre, de notre côté, on essaye de faire en sorte que des choses aillent bien autour de nous. Mmh. Donc, ça passe par des petites choses, hein, mais voilà. Moi, je me dis que ma fille me conduit sur un certain chemin et je me dis, voilà, je prends son chemin et je fais des petites choses à mon niveau. Et je trouve que c'est déjà bien parce que je peux pas faire plus. Je peux pas changer le monde, moi, toute seule. Mais je me dis que si tout le monde fait comme moi, ben pourquoi pas? Effectivement, on peut changer le monde.
Qu'est-ce que vous avez changé?
Alors là,
concrètement,
concrètement, il y a une chose, c'est tout récent. Ma fille a décidé de devenir végétarienne. Donc, elle a 11 ans, c'est une question d'éthique. Elle me dit, voilà, on peut être en excellente santé sans manger de viande, sans manger de poisson, etc. Donc, elle nous a expliqué, elle m'a juste dit, tu sais que si tu t'arrêtes de manger de la viande demain, elle dit, tu épargnes 360 animaux dans l'année. Et j'ai trouvé ça énorme, en fait, à moi toute seule. J'ai trouvé ça énorme. Et je me suis dit, ben, moi, toi, mon épouse, on va être trois à devenir végétarienne et à nous trois, on va sauver trois fois 360 animaux dans l'année. Alors mais je trouve que c'est énorme et c'est un pas qui est énorme pour notre famille, quoi. Donc voilà, ça passe par des petites choses comme ça. Et je lui ai posé la question ce matin du thème de l'émission. Et bien, c'est peut-être dû à l'innocence de son jeune âge, mais elle me dit, bah non, le monde effectivement ne va pas mal, mais nous, elle fait, t'imagines, moi, si j'arrête de manger de la viande, je vais sauver 360 animaux. C'est énorme, maman. C'était émouvant de l'entendre dire ça, parce qu'effectivement, si tout le monde, une association, enfin, on peut changer le monde en faisant des petites choses à notre niveau, ça peut devenir énorme.
Alors, Marianne Chaillant. On y est là, c'est intéressant. Hein
ouais. C'est très intéressant. En fait, Christelle, je trouve, elle nous montre qu'il y a effectivement quelque chose d'altruiste et presque de poli dans le fait de tâcher d'être heureux dans un monde qui va mal. Elle me fait penser à cette phrase de Prévert, il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Donc cette dimension-là est très belle. Et puis aussi, elle nous apprend quelque chose du bonheur, qui me fait penser à Nietzsche, parce que dans son livre qui s'appelle L'Antéchrist, on trouve cette définition du bonheur comme le sentiment qu'une résistance est surmontée. C'est-à-dire que le bonheur, c'est un combat contre tout ce qui nous affaiblit, c'est une tâche. C'est pas simplement un état de bien-être, c'est une tâche qu'on doit faire pour assentir à la réalité dans toutes ses dimensions. Vous avez dit, Flavie, une très belle phrase, vous avez dit, on peut avoir mal à notre monde, mais on peut ne pas aller mal dans notre monde. C'est exactement ça, en fait, ce que Christelle nous montre, avec des accents nietzschéens, en fait, c'est qu'on peut vivre avec, c'est pas nier ce qui va mal, c'est affirmer qu'il y a des choses qui vont mal et qu'on les intègre comme partie prenante de l'existence. Et puis, elle nous donne aussi une très belle leçon, c'est que quand on a mal à notre monde, on peut essayer d'œuvrer pour créer un monde dans le monde. Alors, elle donne cet exemple au quotidien, mais ça peut être politique, ça peut être par l'art. J'ai lu des témoignages sur votre page Facebook de gens aussi qui disent, j'ai pu écrire un livre, j'ai pu me tourner vers les autres. Voilà, on peut transformer le monde aussi.
Alors, Christelle, c'était super intéressant. Vous avez en plus découvert, grâce à Marianne Chaillant, que vous avez des accents nietzschiens. Donc, vous pouvez le sortir dans les dîners. Moi, excusez-moi, mais mon discours a des accents nietzschiens. Moi, je trouve que c'est quand même super classe.
Je le savais déjà.
Ah oui, pardonnez-moi, très cher. En tout cas, je vous remercie, Christelle, parce que c'était hyper intéressant. Alors, évidemment, on va faire un tour par l'actualité. Donc, vous ne débranchez pas, Christelle. Vous continuez à nous écouter jusqu'à 15h30 parce que ce sera génial. Et puis, Gilles Verviche interviendra, évidemment, en retour des informations. Je vous remercie, Christelle. Je vous embrasse.
À bientôt
sur RTL.
À bientôt.
Salut.
Au revoir.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Peut-on être heureux dans un monde qui va mal? Je vois du positif dans chaque situation, nous écrit Popo sur Facebook. Eh oui, Popo, c'est son surnom. Si on écoute les gens, le monde n'est jamais bien, mais cela dépend aussi de la façon dont on voit les choses, d'un caractère plutôt optimiste. Je vois du positif dans chaque situation, ça me permet de profiter à fond de tous les moments de cette vie et de pouvoir en voir toutes les couleurs et la beauté sans pour autant ignorer les malheurs du monde. Gilles Verviche, vous êtes philosophe, vous êtes notre invité jusqu'à 15h30 en compagnie de Marianne Chaillant. Gilles, vous avez entendu le témoignage tout à l'heure de Christelle qui nous expliquait qu'elle avait aussi appris à gérer ses propres impuissances face au monde qui va forcément plus vite que nous, mais qu'en revanche, en posant des actes, elle parvenait à se restaurer et à aller bien dans un monde qui va mal. Et en faisant sa petite part, je dirais, hein, du boulot, ouais, du bonheur. Le fait de poser des actes, le fait d'être dans l'action, le fait d'être en mouvement, n'est-ce pas une façon aussi de résister à l'immobilisme de la situation ?
Exactement, c'est ce que
merci,
ça m'a fait.
Merci, mon cher ami.
Voilà, tout à fait, bien dit. Deux choses à dire.
Ouais.
Par rapport à ce qu'elle nous a dit, je vais vous répondre dans une seconde. C'est juste que ça me faisait penser qu'il fallait quand même savoir ce qu'on voulait dire par aller bien. C'est-à-dire que quand un auditeur disait qu'il était optimiste, en fait, ça dépend ce qu'on entend par optimiste. Il y a l'optimiste au sens courant, caricatural de Voltaire, c'est penser que tout va bien quand tout va mal, qui sert pas à grand chose. On est un peu dans le déni, ces fameux dîners mondains dont on parlait, où j'ai pas de problème alors que le monde va mal. Puis il y a l'optimiste qui arrive à se projeter un peu dans l'avenir et à se dire que ça peut aller mieux et du coup essayer d'y contribuer. Voilà. Donc effectivement, si tout le monde allait mal, le monde entier pourrait pas s'en sortir. Et effectivement, poser des actes, ça on retrouve pas mal la philosophie stoïcienne, hein, Marc Aurèle en parle, ou Épictète, qui consiste à pas subir les choses, mais comprendre qu'il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui n'en dépendent pas. Et il parle comme ça de se réveiller le matin en posant un certain nombre de choses que je vais faire, reprendre un peu l'initiative sur sa propre vie plutôt que de subir les choses. Voilà, hein, contre le destin qui s'acharne, faire preuve de volonté, voilà, et en se préparant un peu comme ça, il y a toute une philosophie comme ça de poser des actes dès le matin, de savoir un peu tout ce qu'on va pouvoir faire, et effectivement, à son niveau, on peut, c'est pas la peine de, effectivement, parce que c'est inutile de changer le monde, mais
il y a des choses qu'on
entre
peut pas
moi
faire.
Et le monde, il y a mon, voilà, il y a celui qui m'entoure, hein, il y a le monde qui m'entoure, et ça, quand même, on peut quand même faire un certain nombre de choses.
Marianne Chaillan, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui culpabilisent d'aller bien ? Certains nous écrivent, en fait, moi, de dire que je vais bien aujourd'hui, quelque part, c'est comme une ça peut être perçu par certains comme une provocation. C'est terrible, d'ailleurs, de devoir toujours verser dans quelque chose de négatif au motif, effectivement, qu'on vit tous une épreuve dite collective.
Oui, ça les honore, en tout cas, je trouve ce sentiment-là, puisque ça prouve que malgré le fait qu'ils puissent se réjouir ou ne pas aller mal, ils ont néanmoins conscience de ceux pour qui ça va moins bien. Alors culpabiliser, non, mais prendre appui sur ce qu'ils appellent une culpabilité pour essayer, comme l'ont dit certains de vos auditeurs, de répandre autour d'eux le bien-être qu'ils ressentent. Pourquoi pas ? Voilà comment utiliser cette forme de culpabilité, on va dire, pour la transformer au service de ceux qui ne vont pas bien.
Yolande nous écrit, moi j'ai deux fils dont l'un qui a failli malheureusement perdre la vie après un accident de travail très grave. Cela m'a donné l'occasion de relativiser. Je ne me plains pas, je suis heureuse que l'on m'ait épargné ce grand chagrin. J'apprécie l'existence tous les jours. Les épreuves sont là pour nous apprendre à comprendre le vrai sens de la vie. Eh bien, figurez-vous que nous allons tout de suite accueillir Arnaud qui a 34 ans. Il vit du côté de Caen. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Soyez
bonjour
le bienvenu. Merci d'être avec nous pour cette heure de philo. C'est bon, vous avez votre copie, vous allez la rendre.
Ouais, c'est
et nous.
Bon.
Et merci de réfléchir avec nous, justement, Arnaud. Évidemment, je vous ai lu le message de Yolande. Vous-même, vous avez vécu des épreuves personnelles difficiles qui, quelque part, vous ont permis de vous recentrer sur un bonheur qui est essentiel, qui est peut-être avant tout le vôtre.
Complètement. En 2018, je suis tombé gravement malade.
Ouais.
J'ai été alité pendant un an et demi à peu près.
Ouais.
Et en étant alité et en souffrant, j'ai pu réfléchir. Soit je me laissais tomber, soit je rebondissais et je redressais les manches et puis c'était parti. Et j'ai choisi la deuxième solution. J'ai redressé les manches et je me suis battu. Et aujourd'hui, je vis normalement et je vis très bien. Et je croque la vie à pleines dents parce que j'ai pris conscience qu'on n'avait qu'une vie et que c'était important de se battre.
Et que c'est important aussi de se battre, d'être dans le mouvement, comme le disait Gilles Verviche il y a un instant, et de savoir aussi parfois se recentrer sur soi.
Ah bah, j'ai appris aussi à être égoïste. Les médecins me disaient beaucoup que je pensais beaucoup aux autres. Et j'ai appris donc à penser à moi. Et maintenant, je prends tous les jours un quart d'heure, une demi-heure pour moi, pour faire de la méditation, pour faire de la lecture, pour faire du sport. Mais tous les jours, c'est mon rituel, je suis égoïste et fier de l'être parce que ça va beaucoup mieux. Mais ça permet aussi d'aller mieux autour de moi. Ma famille va mieux depuis que je vais mieux. Donc voilà, après, c'est un cercle et je trouve ça très bien, quoi.
Alors, on va se retrouver dans un instant parce que vous voyez, il y a un instant, je revenais sur des messages que l'on reçoit, Arnaud, d'auditeurs qui nous disent « Je culpabilise parfois de dire que je vais bien », comme s'il fallait être dans une sorte de morosité aussi collective. Et là, vous avez dit quelque chose de très fort. « Je suis égoïste et fière de l'être ». Eh bien, on va en parler avec Gilles Verviche, avec vous aussi, Arnaud. Vous restez avec nous. Et Marianne Chaillant, dans un instant sur RTL. Nous sommes en direct. À tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Eh bien, je suis égoïste et fière de l'être, nous a sorti Arnaud il y a un instant sur cette antenne. Il habite à côté de Caen, il a 34 ans, il participe à nos échanges philosophiques en ce lundi de Pâques. Nous sommes en direct jusqu'à 15h30. Marianne Chaillant, vous êtes prof de philo. Et vous avez écouté le témoignage d'Arnaud qui nous explique que certaines épreuves personnelles, et notamment l'épreuve de la maladie, lui ont appris à se concentrer sur lui-même pour aller bien, malgré le monde qui parfois va très mal.
Oui, c'était très instructif. Arnaud nous a expliqué qu'une crise pouvait être une sorte de table d'accouchement. D'ailleurs, c'est le sens en hébreu du mot crise. C'est une table d'accouchement. Ah ouais. Et il nous montre en fait que, alors lui, il l'a vécu dans cette expérience terrible de la maladie, et nous, collectivement, nous faisons l'épreuve de cette crise. Et ce que nous vivons, comme lui-même lorsqu'il l'a vécu, jette une lumière crue sur notre vulnérabilité, sur notre finitude, sur la précarité de nos vies. Et ça peut être terrifiant, ça peut nous sidérer, ça peut nous anéantir. Lui dit « je tombais ou je me redressais ». Et de fait, on peut soit se laisser tomber, soit on peut y voir un point de départ, un point de renouveau. Et savoir finalement qu'on va finir, ça nous donne une bonne raison de commencer à vivre. Et donc dans ce cas-là, effectivement, le monde qui va mal nous permet de ressaisir notre vie, non pas simplement d'en être dépossédés, nombreux sont ceux qui ont l'impression d'en être dépossédés, mais au contraire, de reprendre possession de nos existences et de percevoir dans cette dépossession que le monde nous fait subir présentement, ce que nous pourrons faire à nouveau lorsque nous reprendrons la main et peut-être déjà commencer aujourd'hui. Donc ça, c'était un premier point qui était très intéressant dans son témoignage. Mais au risque de vous paraître hors sujet, Flavie, et que vous me rendiez une mauvaise note à ma copie, sur un thème qui me paraît important, sur le sujet que vous nous avez donné dans la dissertation. Comment aller bien dans un monde qui va mal? Comment aller bien? Mais moi, je me demande si c'est pas comment aller mieux dans un monde qui va mal, et peut-être qu'en c'est en acceptant que ça va pas bien. Je l'ai vu auprès de certains élèves à moi qui semblaient retenir cette espèce de mal-être, et à partir du moment où ils le verbalisaient, quelque chose se dénouait en eux. Et je me dis qu'il y a peut-être des auditeurs qui n'osent pas prendre la parole parce que vous avez demandé tout à l'heure au monsieur qui est venu présenter les informations, est-ce qu'il est heureux? Il a dit oui, bien sûr. Comme si c'était une évidence d'aller bien et même une injonction d'aller bien. Et je pense que c'est plus facile, effectivement, d'avouer, peut-être même de mentir et de dire qu'on va bien plutôt que de dire qu'on va mal. Et moi, je voudrais m'adresser aussi à vos auditeurs qui ne vont pas bien. Et il y a un philosophe qui pourrait les aider. Ce philosophe s'appelle Ruvanogien. Il a écrit un merveilleux livre qui s'appelle « Mes mille et une nuits ». Arnaud a été frappé par la maladie, Ruvanogien aussi, par un cancer. Et Ruvanogien, à la différence d'Arnaud, il se disait, mais finalement, la souffrance, c'est pas toujours quelque chose dont on sort grandi, dont on sort meilleur. C'est pas toujours cette épreuve dont tout le monde nous dit, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Ruvanogien nous dit, non, à toute chose, malheur n'est pas bon. Et parfois, il y a des choses qui ne nous tuent pas, mais qui nous rendent plus vulnérables. Et c'est libérateur aussi. C'est libérateur de se dire, OK, je ne vais pas bien. Le contexte est terrible. Et je ne vais pas bien. Et ça permet d'ajouter, lire Ruvanogien et faire ce hors-sujet que je suis en train de vous dire. Je pense que ça permet de ne pas ajouter la culpabilité à la souffrance. Nous souffrons tous, et certains, je pense, souffrent de se dire « comment j'arrive pas à trouver les ressources, moi, pour tenir bon, pour aider mon prochain ?» Je pense qu'on a le droit de leur dire « ben non, on va pas bien, et c'est très dur de se tenir debout en ce moment. » Et peut-être que l'avouer, c'est déjà reprendre pied.
Eh bien voilà, c'est-à-dire avouer que l'on ne va pas bien, c'est une façon d'aller mieux, c'est ce que vous nous expliquez.
Exactement.
Et l'idée de ne pas se voiler la face.
Hein, exactement. Flavie.
Et ça, c'est intéressant parce qu'on va l'aborder dans un instant aussi avec Anaïs et avec Déborah. Arnaud, merci beaucoup d'avoir témoigné. On vous souhaite le meilleur.
Je voulais juste dire, si c'est possible, la
bien
souffrance,
sûr.
Moi, je l'ai pas combattue parce qu'on ne peut pas combattre la souffrance, mais je l'ai apprivoisée et ça m'a aidé justement à... Ah voilà, redresser la pente, quoi.
Je vois très bien ce que vous voulez dire. C'était super intéressant et j'espère qu'on aura l'occasion de converser ensemble sur cette antenne. Arnaud, prochainement. Merci à vous. À la prochaine.
Merci. Au revoir.
Anaïs est en ligne avec nous. Bonjour Anaïs.
Oui, bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Déborah vous écoute, puisqu'elle va intervenir aussi sur cette antenne. Bon, on va l'accueillir tout de suite. Bonjour Déborah.
Bonjour Flavie.
Bienvenue. Alors, Anaïs et Déborah, vous avez un point commun dans des étapes différentes peut-être de votre vie. Mais en fait, vous Anaïs, on se disait il y a un instant avec Marianne Chaillant et Gilles Verviche, voilà, l'idée c'est peut-être de ne pas se voiler la face. Vous avez besoin de vivre dans une bulle en ce moment, Anaïs.
Ah oui, tout à fait.
Ouais. Oui, sans vous voiler la face pour autant, mais vous voulez vous extraire du monde.
Ah oui, je suis complètement consciente de ce qui se passe dans le monde, mais je préfère vivre dans ma bulle pour me protéger, sinon ce ne serait pas gérable.
Ça passe par quoi?
Comment ça passe par quoi?
Bah, vous faites quoi pour vivre dans votre bulle? Vous vous déconnectez des infos
Non, parce que j'aime quand même suivre quand même les infos, mais je me concentre sur mes projets de vie. Donc je me concentre sur mes projets de ma maison, de mon travail, sur ma vie en général. Mais si après je me concentre sur tout ce qui se passe mal dans le monde, c'est pas possible.
Bah justement, Déborah, vous avez vécu, parce que vous étiez journaliste, vous avez vécu, Déborah, au cœur de l'actualité locale, régionale, dans une radio. Vous avez été directrice d'antenne et vous présentiez les infos et à un moment donné, ça jouait sur votre morale.
Oui, effectivement, Flavie, tous les matins, voilà, depuis des années, présenter des informations négatives, des faits divers tragiques. Il y a eu les crues en 2016. On a vu évidemment la pandémie l'année dernière avec le décompte tous les matins des morts. Ça atteint forcément à un moment donné sur le moral. Et donc j'ai ressenti ce besoin de créer une chronique résolument optimiste sur le bonheur. Je l'ai compilé après dans un livre.
On va en parler dans un instant, tous ensemble sur RTL. On se retrouve tout de suite.
RTL.
Flavie Flamand. Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Alors, cette notion de bulle dont vous nous parlez, Anaïs et Déborah. Alors, Anaïs, vous avez besoin d'être dans une bulle et de ne pas être complètement connectée au monde qui vous entoure pour aller bien. Et vous, Déborah, vous avez posé des actes et vous avez créé une chronique sur le bonheur.
Voilà, c'est ça.
Parce que parler du bonheur au lieu de parler des infos, ça vous fait du bien.
Oui, voilà, ça fait du bien. Et puis j'ai eu l'envie de partager des bulles de bonheur avec les auditeurs de la radio. Et ensuite, j'en ai créé un livre qui s'appelle « Du bonheur au fil des saisons », pour le partager au plus grand nombre, finalement, le résultat de toutes mes recherches sur le bonheur. Donc c'est vraiment des idées. Je compile des articles, c'est plus de 100 articles illustrés par des photographies et des citations sur le bonheur au fil des mois et des saisons.
D'accord.
Donc pour des idées, pour garder le moral, le bien-être, parce que c'est important dans notre existence, effectivement, il est nécessaire de savoir ouvrir les yeux, mais retrouver son âme d'enfant, c'est merveilleux chaque jour, finalement, chaque saison, des moments simples de la vie. Oui, effectivement, il y a des choses qui vont mal dans le monde, mais il y a aussi des petits bonheurs qu'il ne faut pas hésiter à saisir au quotidien afin d'aller mieux. Et ces petits bonheurs, ils nous rendent plus résilients et plus énergiques pour affronter les difficultés qui jalonnent notre existence.
Et Anaïs, quand vous écoutez Déborah, forcément, vous vous y retrouvez. Vous nous expliquez il y a un instant que d'être connecté tout le temps aux infos, c'est comme Anaïs qui tous les jours faisait le décompte pendant le premier confinement des cas de malades de la Covid. Vous, Anaïs, vous avez besoin, cette bulle, vous la créez autour de vous en vous déconnectant quand même d'une certaine façon parce que vous vous concentrez sur les bonnes choses. Mais est-ce qu'à force de vous frotter justement à la dureté du monde, vous vous sentiez fragilisée? Est-ce que vous reprenez des forces quand vous êtes dans votre bulle?
Ah oui, tout à fait, parce que moi, ma thérapie, c'est mes animaux. Comme ça, ça m'apporte tellement de bien-être que je déconnecte complètement. C'est un bonheur au quotidien. Donc oui, forcément, je déconnecte complètement du monde extérieur. Hein, ça, c'est sûr. Hein, c'est une joie de vivre au quotidien.
Donc là, oui, ça me permet de m'évader complètement. Ouais. Mais c'est vrai qu'un journal des bonnes nouvelles tous les jours, ça, je pense que ça ferait du bien au moral des Français, je pense.
Mais alors, c'est marrant parce que vous savez qu'on nous l'a beaucoup de fois proposé en télévision. On a essayé de le faire et c'est pas ce qui faisait les meilleures audiences, figurez-vous. C'est ça qui est dingue. Parce que vraiment, on a tous essayé un jour de faire le journal des super bonnes nouvelles et tout. Et en fait, on se rendait compte que les gens attendaient quand même d'être connectés aussi à la marche du monde qui ne va pas toujours si bien. Gilles Verviche, une réaction au témoignage qu'on vient d'avoir d'Anaïs et de Déborah. Ouais, je suis d'accord. Gilles ?
Ouais, je suis là. Non, mais en fait, je réfléchissais à tout le fil de l'émission, là, en me disant que, alors je sais pas si ça va être aussi hors sujet, mais que, en fait, le gros problème, c'est la culpabilité, parce qu'on on parlait tout à l'heure de culpabiliser en utilisant le verbe avouer qu'on va pas bien. À l'inverse, il faudrait culpabiliser ou pas d'aller bien, alors que y a pas de raison. Et du coup, on se retrouve avec des phrases chocs, je suis égoïste et je suis fier de l'être. Moi, je pense que la culpabilité a rien à faire là-dedans. Je veux dire, il n'y a pas à culpabiliser d'aller bien. Après tout, c'est aussi des gens qui vont mal qui peuvent imposer leur malheur aux autres. Donc, on ne va pas reprocher à quelqu'un qui va bien d'imposer son bonheur aux autres. À la limite, ça serait plutôt pas mal de rayonner un peu avec son bonheur. On a vu que c'était pas si... on a vu que c'était pas si égoïste que ça finalement. Hein. C'est un peu ce que disaient beaucoup les stoïciens qui recommandaient, vous connaissez l'adjectif stoïque, d'être indifférent, de pas souffrir des vicissitudes de l'existence. Alors être indifférent, ça voudrait dire du coup être indifférent au malheur des autres, mais non, ça donne aux autres l'exemple pour être heureux. Et je pense qu'il vaut mieux rayonner en allant bien que de rayonner en allant mal. Et en tout cas, je pense que la culpabilité, c'est vraiment la plaie de l'existence. Faut s'en débarrasser, faut arrêter de se demander si on doit se sentir coupable ou pas d'être ceci ou cela. Je pense que ça réglerait beaucoup de questions.
Merci beaucoup Gilles Verviche d'avoir été avec nous. On conseille votre ouvrage « Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi » aux éditions Flammarion. Marianne Chaillant, le mot de la fin ?
Le mot de la fin, un peu léger. Je crois qu'Anaïs nous a donné envie de revoir le roi lion. Nous trouvons cette phrase « Hakuna Matata » et où on a ce lion qui est dans une oasis au cœur du désert, dans sa bulle, et qui parvient à être heureux en fait. Alors même que tant de choses le faisaient souffrir, il parvient à reconquérir son bonheur. C'est léger, mais c'est très profond, c'est stoïcien comme Gilles en parlait.
Eh bien, on terminera sur le Hakuna Matata. Marianne Chaillant, merci beaucoup. Votre livre, c'est In Pop We Trust aux éditions des Équateurs. Il me reste le temps aussi de remercier Anaïs qui nous a appelé du côté de Sainte. On vous souhaite plein de bonnes choses dans votre bulle. Et puis, on sent que vous en sortez de temps en temps. Et c'est vachement bien aussi. Merci beaucoup d'en être sortie pour échanger avec nous aujourd'hui, Anaïs.
Avec plaisir.
Déborah, plein de bonnes choses pour vous et pour votre ouvrage et votre chronique justement sur le bonheur. Merci Déborah.
Merci beaucoup. À bientôt. Du bonheur au fil des saisons, au fil de Pinel.
Eh bien voilà, le message est passé. Merci Déborah. Merci à vous tous en tout cas pour cette émission philo passionnante. On se retrouve demain dès 14h30. Alors pour parler du cannabis à l'occasion de la diffusion d'un doc qui est passionnant, avons-nous tous déjà fumé un joint ? Vous apprendrez énormément de choses pour vous et pour les plus jeunes aussi, en écoutant cette émission demain de 14h30 à 15h30 en direct sur RTL. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et comme on est à la radio et que j'ai le droit de le faire, je vous embrasse. À demain.